Vous écoutez, on lit pour vous.
La réalité des femmes en situation d'itinérance. Un texte d'Eya Ben Nedjem de Franco-Presse, paru le 18 août 2023 dans l'Aurore boréale. Chaque année, environ 235 000 personnes au Canada se retrouvent en situation d'itinérance à un moment ou à un autre de l'année. Parmi elles, 27 % sont des femmes et un grand nombre d'entre elles font partie des itinérantes invisibles. Céline Bellou s'intéresse à la réalité des femmes en situation d'itinérance. La professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal et directrice de l'Observatoire des profilages, ODP, remarque que les idées reçues sur la réalité des itinérantes sont nombreuses. Quand on en voit une, on a l'impression vraiment que c'est la déchéance. On côtoie des femmes en situation d'itinérance partout, mais sans les voir parce qu'elles ne veulent pas se faire voir, indique-t-elle. Statistique Canada distingue deux types d'itinérance. L'itinérance sans abri, qui définit notamment les personnes qui fréquentent les refuges ou qui dorment à l'extérieur, et l'itinérance cachée, qui désigne les personnes qui n'ont pas de domicile fixe, mais qui habitent temporairement chez des connaissances. Se cacher pour se protéger. Essayer de passer du temps chez l'un, chez l'autre, chez des amis, chez des familles éloignées, passer d'un endroit à l'autre, constitue la réalité de plusieurs femmes en situation d'itinérance cachée, confirme Sophie Rousseau, travailleuse en santé mentale en maison d'hébergement pour femmes en Colombie-Britannique. Les femmes vont tout faire pour ne pas être dans la rue, et lorsqu'elles arrivent à la rue, elles vont tout faire pour cacher leur situation d'itinérance. Elles vont essayer de ne pas paraître dans les milieux où on a des personnes en situation d'itinérance, ajoute Céline Bellou. Se tenir propre, invisible, ne pas transporter beaucoup de choses au risque de se faire repérer, éviter un certain nombre de lieux, notamment mixtes. Tels sont les défis quotidiens auxquels beaucoup de femmes itinérantes sont confrontées, déclare la chercheuse. Des hébergements inadéquats. Le Canada comptait 437 refuges d'urgence pouvant accueillir 15 185 personnes en 2021. En tout, 53 refuges étaient réservés aux femmes, 82 étaient réservés aux hommes et 161 accueillaient des hommes et des femmes. Le système leur impose de se débrouiller par elles-mêmes parce que même le système de l'intervention ne parvient pas à les accueillir faute de place, déclare Céline Bellou. Dans la maison d'hébergement où elle travaille, Sophie Rousseau côtoie des femmes qui se retrouvent en situation d'itinérance cachée et sans abri. Celles qui refusent de respecter les règles des maisons d'hébergement choisissent de rester à l'extérieur, tout en accordant une grande priorité à leur sécurité. Elles vont privilégier des parcs publics qui ont des petites zones nature, qui ont un certain espace entre les arbres, qui ne sont pas tendus et qui sont volontairement laissés plus ou moins dans un état semi-sauvage, et donc les personnes vont aller avec leur tente et camper, confie Sophie Rousseau, travailleuse en santé mentale. Selon elle, une femme qui se retrouve sans logement parce qu'elle fuit la violence va rarement vouloir s'approcher d'une maison d'hébergement mixte, et donc elles sont doublement pénalisées, parce que les services ne sont pas à la mesure des besoins. Le cercle vicieux de la violence. Une des voies du passage vers l'itinérance des femmes, c'est la question de sortir de la violence conjugale qui les précipite finalement dans une perte de logement, la perte de chez soi. Il va y avoir des trajectoires aussi spécifiques de femmes qui vont avoir des problèmes de santé mentale qui ne sont pas prises en charge, non reconnue comme la dépression, constate Céline Bellou. Une fois en situation d'itinérance, les femmes vont être constamment dans l'hypervigilance à essayer de s'assurer une sécurité tout en s'invisibilisant, poursuit-elle. Elles vont essayer constamment de travailler pour leur sécurité. Même après avoir fui la violence dans leur propre foyer, ces femmes sont exposées à la violence de la rue. Après avoir passé plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois dans la rue, elles ont toutes subi de la violence sexualisée pendant leur période dans la rue, confie Sophie Rousseau, d'après des témoignages recueillis auprès des femmes rencontrées dans la maison d'hébergement où elles travaillent. Ce que nous, on observe, c'est que les femmes se mettent en couple avec quelqu'un qui est un peu craint dans la communauté de la rue. C'est l'une des façons les plus rapides d'obtenir une protection, note Sophie Rousseau. Écoutez ces femmes. Améliorer la condition des femmes en situation d'itinérance commence par la reconnaissance qu'elles existent pour, par la suite, trouver des solutions qui leur sont adaptées et leur sont spécifiques, déclare Céline Bello. Parmi celles-ci, favoriser un environnement sécuritaire dans les centres d'hébergement mixtes, indique la professeure. À l'échelle individuelle, la meilleure façon d'aider les femmes en situation d'itinérance est de laisser la personne exprimer ses besoins plutôt que de les assumer et imposer nos propres préjudices et préjugés sur la personne, suggère Sophie Rousseau. On a trop tendance à finalement les positionner en victimes et donc à les prendre en charge comme si on savait tout ce qui était meilleur pour elles, alors qu'elles savent ce qu'il y a de mieux pour elles, conclut Céline Bello. C'était « La réalité des femmes en situation d'itinérance », un texte d'Eya Ben Nejiem de Franco-Presse, paru le 18 août 2023 dans l'Aurore boréale. L'enfer de la drogue fait des ravages au coin de la rue. Un texte d'André-Sylvain Latour, paru le 12 avril 2024 dans le Journal de Montréal. Ce n'est pas la première fois qu'Audrey s'arrête devant les bureaux de Cube. Ce n'est pas la première fois qu'elle se penche, la tête entre les deux pieds, les bras pendants, dans un état d'inconscience presque complet. Je ne sais pas si elle dort ou si elle ne fait que mourir sur le trottoir, seule devant tout le monde. Dans l'indifférence des gens qui la croisent, des gens qui se demandent quoi faire, s'ils doivent intervenir. Finalement, Audrey reste seule dans son univers. Je sors, je cherche les policiers du regard. Sur l'heure du midi, ils sont ailleurs. Le coin Berry-Sainte-Catherine est désert. On fait un appel au 911. Il est 12h39. Prochaine dose. Cela fait au moins 10 minutes que je la surveille, que je me demande si je vais devoir me servir de la naloxone que nous avons au bureau. Elle titube d'un côté, de l'autre, mais ne tombe jamais. Aujourd'hui, je trouve le courage d'intervenir. Je lui mets la main sur le dos. Elle sursaute péniblement. Est-ce que ça va? Mes médicaments. On m'a volé mes médicaments. J'ai peine à l'entendre. Les mots sont à la limite du compréhensible. Ils viennent de loin. De très loin. Je lui demande si on peut lui en trouver d'autres. Mais comme elle les a achetés sur le marché noir, c'est impossible. Ces médicaments, c'est probablement sa prochaine dose. Elle réussit enfin à se redresser un peu. Ses yeux sont vitreux, absents. Je n'arrive pas à savoir si elle est dans la trentaine ou dans la cinquantaine. Elle n'a plus de dents. Elle attrape son manteau. Je me penche. Je ramasse son sac de plastique blanc. Fais attention, il y a des seringues dedans. Je regarde ses mains sales et burinées par le froid. J'ai peur qu'elle ne tombe en plein visage tellement son équilibre est fragile. Je l'invite à s'asseoir contre le mur, mais elle refuse. Finalement, sans rien me dire, sans me regarder, elle traverse la rue, difficilement. Heureusement, il n'y avait pas de voiture. Univers infernal. Les policiers sont arrivés à 13h22. Ils ont établi un contact avec elle. Elle était revenue sur le coin de rue et s'était couchée devant l'édicule du métro Berry. Un homme était assis avec elle. Je crois que les deux venaient de fumer du crack. Comment voler encore plus haut, encore plus loin? Comment oublier une existence comme celle-là? Hier, toujours dans le même coin, un homme dort sur le trottoir. Il a les bras levés et le chandail qui remonte. Je peux voir son ventre et la trentaine de broches médicales qui viennent refermer son poitrail. Du nombril jusqu'en haut. Sur le côté droit, une autre plaie est refermée par une dizaine de broches de plus. Les plaies sont rougies. Ça ne ressemble pas à une opération médicale. Plus à une opération de sauvetage. Ça détourne l'attention de son pied qui présente lui aussi une plaie importante. Les gens qui le croisent froncent les sourcils. Je ne peux pas dire si c'est du dédain ou de la pitié. Lui continue de dormir. Peut-être qu'il est parti retrouver Audrey dans son univers et qu'ensemble, ils dansent au son d'une musique entraînante. Peut-être que cette fête est si belle que les autres itinérants du coin y participent tous les jours. Peut-être qu'une fois qu'on est là-bas, on ne souhaite plus jamais revenir dans le monde réel. Mais moi, la fête, je ne la vois pas. Je ne l'entends pas. Tout ce qu'il y a devant mes yeux, c'est une femme et un homme pris dans l'enfer de la drogue et des intervenants qui manquent cruellement de moyens pour leur venir en aide. C'était « L'enfer de la drogue fait des ravages au coin de la rue », un texte d'André-Sylvain Latour paru le 12 avril 2024 dans le Journal de Montréal. Des milliards pour la guerre en Ukraine et des Pinotes pour l'itinérance. Un texte de Maria Mourani, paru le 6 mars 2024 dans le Journal de Montréal. Près de 830 000 Canadiens, dont environ 98 000 Québécois, ont déclaré en 2021 avoir vécu une situation d'itinérance. Lorsqu'on analyse l'itinérance cachée, ce nombre passe à près de 4 millions de Canadiens. Soit environ 674 000 Québécois. Ces chiffres de l'enquête canadienne sur le logement 2018 et 2021 me laissent sans voix. Être en situation d'itinérance englobe plusieurs cas de figure impliquant une instabilité ou une incapacité à avoir un logement. Autrement dit, l'itinérance est un continuum qui englobe une myriade de situations. Les sans-abri, les squatteurs, les refuges, les maisons d'hébergement, le couchsurfing, loger chez des amis, la famille, etc., le fait de dormir dans sa voiture, etc. Dans sa stratégie nationale sur le logement lancée en 2017, le gouvernement Trudeau s'est mis comme objectif de réduire de 50% le nombre de personnes en situation d'itinérance chronique d'ici 2028. L'investissement prévu pour atteindre cet objectif se décline essentiellement dans le programme « Vers un chez-soi à la hauteur d'une prévision budgétaire d'environ 4 milliards sur 10 ans ». L'Ukraine avant l'itinérance. Bien que le gouvernement Trudeau fasse de grandes promesses et peine à les remplir, il n'en demeure pas moins qu'en 2 ans, soit depuis le début de la guerre en Ukraine, il s'est engagé à donner plus de 9,5 milliards de dollars d'aide, dont plusieurs milliards en armement militaire. Alors que plusieurs de ses alliés, dont les États-Unis, ferment le robinet, ce gouvernement priorise la guerre. Que l'on souhaite aider des alliés, soit, mais pas à cette ampleur et encore moins lors d'une crise économique. Parions que le prochain budget fédéral d'avril sera sans grande surprise. Je m'attends encore à un grand cadeau militaire à l'Ukraine. Et le NPD, va-t-il encore voter pour ça? En vérité, ce genre de politique me sidère. Le logement d'abord, un système qui a fait ses preuves. Que veulent les personnes en situation d'itinérance? Vivre dans des refuges? Rester dans l'assistanat? Certainement pas. Ils veulent un logement abordable, un « chez eux » et avoir le soutien nécessaire temporaire pour le garder. Il est vrai qu'une minorité de personnes itinérantes ont besoin de soutien de longue durée, car elles sont aux prises avec des problématiques multiples, troubles mentaux, toxicomanie, ou en font un mode de vie. Cependant, la majorité demande juste un réel coup de main pour reprendre sa vie en main. La stratégie du logement d'abord, housing first, prend alors tout son sens. Au Canada, elle a été lancée par le gouvernement Harper. Elle avait alors soulevé un véritable tollé, car les fonds fédéraux étaient alors alloués en grande partie au logement. Les services de première ligne et psychosociaux devaient être financés autrement. Certes, l'itinérance chronique peut impliquer une panoplie de demandes de services de première ligne et psychosociaux. Reste que c'est aux provinces à en assumer les coûts. La santé et les services sociaux sont, après tout, de compétences provinciales. Si le Canada est sincère quant à son adhésion aux objectifs de développement durable, OOD, de l'ONU, il doit faire en sorte de ne laisser personne de côté et revoir ses priorités. C'était des milliards pour la guerre en Ukraine et des peanuts pour l'itinérance. Un texte de Maria Mourani, paru le 6 mars 2024 dans le Journal de Montréal. Saint-Jérôme gagne une première bataille juridique dans le dossier de l'itinérance. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 5 janvier 2024 dans Le Devoir. Malgré le temps froid, la Cour supérieure estime que la ville de Saint-Jérôme peut continuer d'interdire aux itinérants qui dorment dans la rue de se protéger des intempéries dans des abris de fortune. En effet, le tribunal a refusé d'accorder une injonction interlocutoire provisoire pour que cessent les évictions et les démantèlements de campements. La clinique juridique itinérante plaidait l'urgence dans l'espoir d'améliorer la qualité de vie des itinérants en attendant les procédures sur le fond qui auront lieu ultérieurement. Sur la question de l'urgence, le tribunal retient les arguments de la ville, a déterminé le juge Paul Maillé, après avoir pris le dossier en délibéré pendant quelques heures. C'est depuis octobre 2022 que la ville évince les personnes en situation d'itinérance et démantèle leur camp. C'est également depuis octobre 2022 que la ville donne des constats d'infraction à ceux qui ont dormi dans la rue. Le tribunal constate ainsi que la situation urgente que la demanderesse veut arrêter existe depuis longtemps. En fait, depuis trop longtemps. Le magistrat a indiqué à plusieurs reprises être touché par ce qu'il entendait et par ce qu'il avait lu dans les documents qui lui ont été présentés par la clinique juridique itinérante, qui a exposé sous forme de déclaration sous serment le témoignage de 14 personnes en situation d'itinérance. « Ça vient nous chercher, toute la souffrance que subissent ces personnes », a affirmé le juge Maillé. Dans une société riche comme on l'est, de ne pas pouvoir faire face adéquatement à cette situation-là, c'est assez troublant. Or, il estime que le tribunal doit être prudent à ce stade-ci des procédures. Dans la salle, les intervenantes de l'organisme Le Bouc humanitaire et un itinérant cachaient mal leur déception. Certains retenaient leurs larmes. 6. C'est le nombre de lits en hébergement d'urgence à Saint-Jérôme. Les 62 autres places, réparties dans 2 refuges, sont limitées aux itinérants qui s'engagent dans un programme de réinsertion sociale. « Il y a 3 étapes, ce n'est que la première », a déclaré brièvement le directeur de la clinique juridique itinérante, Donald Tremblay, à sa sortie de la salle de cour. L'avocat de Saint-Jérôme, maître Daniel Goupille, a, pour sa part, fait savoir que la ville prendrait position en temps et lieu. Principe de justice fondamental. La suite est donc à venir, puisque les parties se retrouveront à une date qui n'a pas encore été déterminée pour plaider le dossier sur le fond. La clinique juridique itinérante espère faire déclarer inconstitutionnelle et inopérante les dispositions réglementaires de la ville de Saint-Jérôme qui empêche les itinérants de dormir dans la rue et d'ériger des abris de fortune pour se protéger du froid et des intempéries et qui, ainsi, les force à s'isoler davantage pour se cacher de la police. Selon la clinique juridique itinérante, ces règlements mettent la vie, la liberté et la sécurité de ces personnes en danger d'une manière non conforme aux principes de justice fondamentale, écrit-elle dans le document de plus de 50 pages déposé vendredi à la Cour. Elle soutient que dormir à l'extérieur n'est pas l'issue d'un choix, mais bien d'une absence de choix, et qu'il n'y a pas suffisamment de place pour accueillir les quelque 40 à 50 itinérants qui sont ainsi forcés de dormir à la Belle Étoile ou d'errer toute la nuit. Elle parle du nombre de places, mais également de problèmes d'accès pour une partie de la population fragilisée. Un band-aid sur une solution inacceptable. Selon la preuve déposée vendredi, il n'y a que 6 lits en hébergement d'urgence à Saint-Jérôme. Les 62 autres places, réparties dans 2 refuges, sont limitées aux itinérants qui s'engagent dans un programme de réinsertion sociale. Leurs bénéficiaires doivent donc se plier à certaines règles que plusieurs itinérants ont décrites dans leurs témoignages comme étant infantilisantes. La ville de Saint-Jérôme a également mis sur pied une halte chaleur qui peut accueillir jusqu'à 50 personnes, mais il est interdit d'y dormir et les itinérants qui vont y chercher un peu de répit doivent sortir toutes les 2 heures et rester 1 heure à l'extérieur avant de pouvoir y retourner. La municipalité affirme donc qu'il y a assez de place pour que tous ceux qui le souhaitent puissent passer la nuit au chaud. Un argument retenu à cette étape-ci par le juge Maillé, bien qu'il estime que la halte chaleur n'est qu'un band-aid sur une situation inacceptable et ne constitue pas une solution à long terme. Étant donné les ressources et le plan mis en place sur les mesures hivernales pour l'itinérance 2023-2024 en période de grand froid, l'objectif de la ville est de s'assurer de ne laisser personne pour compte à l'extérieur, a résumé le magistrat. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite bonne chance à respecter non seulement cet objectif-là, mais cette mission. C'était « Saint-Jérôme gagne une première bataille juridique dans le dossier de l'itinérance », un texte de Jessica Nadeau, paru le 5 janvier 2024 dans Le Devoir. Inauguration du plus vaste immeuble de logement contre l'itinérance à Montréal. Un texte de Stéphane Blais de la presse canadienne, paru le 5 février 2024 dans Le Devoir. Plusieurs élus ont participé le 5 février à l'inauguration au centre-ville de Montréal de ce qui est qualifié de « plus vaste immeuble de logement destiné à la lutte contre l'itinérance au Québec ». L'immeuble Le Cristin, situé rue Cristin, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque, au centre-ville, permettra à près d'une centaine de personnes en situation de vulnérabilité non seulement d'avoir accès à un logement, mais aussi de bénéficier d'un accompagnement psychosocial sur place, a indiqué le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman. Plus de 80% des locataires des 114 logements vont bénéficier de suppléments au loyer qui leur permettront de ne débourser que 25% de leurs revenus pour se loger. Éviter de dormir dans la rue. Monique Charrette, âgée de 67 ans, fait partie des locataires du Cristin depuis le 15 décembre dernier. Elle a raconté à la presse canadienne s'être fait mettre dehors du logement où elle a vécu pendant 15 ans à cause de rénoviction. Elle s'est donc retrouvée dans différents hébergements de courte durée pour personnes en difficulté avant d'être acceptée comme locataire du nouvel immeuble du quartier latin. « Mon Dieu, c'est un soulagement total », a raconté la dame en expliquant qu'elle devenait un peu dépressive lorsqu'elle devait dormir dans les abris d'urgence. « On dirait que si tu pesais 300 livres, maintenant tu en pèses 10 tellement que la pression s'en va », a souligné la locataire pour décrire l'allègement que lui procure la sécurité d'avoir un logement à long terme. « Je ne me voyais pas, à 67 ans, commencer à dormir dans la rue », a ajouté Mme Charette. Le nerf de la guerre, la construction de logements. En conférence de presse, le ministre Carman a indiqué que lors de la dernière mise à jour économique, le gouvernement du Québec avait annoncé que 500 places de logements pour les personnes en situation d'itinérance au Québec seraient ajoutées et que, présentement, il y aurait entre 300 et 400 unités dans les projets. Tout ce qu'on veut, c'est enlever la pression sur les refuges et la transition. Donc, chaque place qui s'ajoute pour nous est la bienvenue, a souligné le ministre lundi matin. Mais selon Fiona Crossling, directrice générale de l'accueil Bonneau, Montréal aurait besoin de plusieurs milliers de logements supplémentaires pour les personnes à risque d'itinérance. Elle a expliqué que le dernier recensement sur le sujet, qui date de 2022, faisait état de 10 000 personnes en état d'itinérance au Québec et que la majorité de ces sans-abri se trouvent à Montréal. Ce dénombrement, c'était des personnes visibles qu'on a réussi à compter dans une nuit. Donc, on sait que le nombre est beaucoup plus élevé, a précisé Mme Crossling. Elle a ajouté que le nerf de la guerre, c'est la construction de logements de toutes sortes, mais principalement des logements abordables, des logements sociaux et des logements que les organismes comme l'accueil Bonneau vont pouvoir gérer pour des personnes vulnérables. Le Christin appartient à la Société d'habitation et de développement de Montréal et c'est l'accueil Bonneau qui gérera ses activités afin d'accompagner les personnes en situation d'itinérance vers une stabilité résidentielle. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a indiqué que le Christin doit être un modèle à reproduire et que tous les partenaires doivent rester mobilisés pour qu'on continue sur cette lancée. Avec un budget de réalisation de 23,5 millions de dollars, le projet a reçu des contributions financières du gouvernement fédéral, du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal. C'était Inauguration du plus vaste immeuble de logement contre l'itinérance à Montréal. Un texte de Stéphane Blais de la presse canadienne, paru le 5 février 2024 dans Le Devoir.